Bonsoir, la tribune de la presse de ce vendredi 16 septembre 2011 a exceptionnellement deux thèmes au menu. D'abord, publication par la CENI ce jeudi de la liste provisoire des candidats à la présidentielle après la clôture dimanche dernier de l'opération de dépôt de candidature aux élections présidentielles et législatives. Ensuite, dans son discours prononcé mercredi dernier à Kinga-Katia, Kinshasa, devant les partis de la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila a dressé un bilan globalement positif de ses 10 ans à la tête de la RDC. Pour en parler, je reçois 3 confrères journalistes. Bienvenue Marie Bakoumagna, rédacteur en chef économie à Télé 7 du groupe de presse Le Potentiel basé à Kinshasa. Bonsoir confrère.
Bonsoir Alain.
Giscard Koussema, journaliste à la radio-télévision digitale Congo émettant depuis Kinshasa. Giscard Koussema, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Barthélémy Kazadi, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Katanga. Barthélémy Kazadi, bonsoir.
Bonsoir Alain Rung, bonsoir à tous.
Bienvenue à tous dans cette émission. Alors avant d'entrer dans le vif de ces deux principaux thèmes de ce soir, je vous invite à suivre la revue de presse présentée par Samuel Kachak.
Bonsoir. L'avenir fait déjà le compte à rebours à 74 jours des élections présidentielles et législatives en RDC. Selon ce journal, Joseph Kabila s'est assumé devant l'opinion nationale et internationale en dressant un bilan sans fausse modestie qualifié de positif. Le confrère ajoute que l'autorité morale de la majorité présidentielle reconnaît quand même qu'il faut encore faire davantage, d'autant plus que le pouvoir d'achat des Congolais demeure en deçà des attentes. Le Potentiel souligne que Joseph Kabila s'est engagé à faire du Congo un pays émergent. Pour sa part, la prospérité écrit en sa une que les secrets de Kinga-Kati sont tels que Joseph Kabila appelle à des élections apaisées. D'après la consoeur, Joseph Kabila a donné quelques critères pour faire un vote utile. Il s'agit de voter la personne remplissant les critères de l'authenticité de ses convictions, la pertinence de sa vision, l'efficacité de sa méthode, la qualité de sa gouvernance et la capacité de poser des actes palpables pouvant marquer et changer la vie nationale. Parlant de l'opération du dépôt de candidature à la présidentielle et aux législatives, l'Avenir rapporte la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats présidentiables pour novembre prochain. Au total, 11 candidatures sont déposées pour l'élection présidentielle. Selon le confrère, la CENI demande à ses candidats de respecter le code de bonne conduite signé par les partis et regroupements politiques pour sauvegarder le climat apaisé des élections. Selon Le Phare, après cette publication, le pasteur Ngoy Mulunda a indiqué qu'il s'ouvrira immédiatement une période de recours et de traitement des contentieux devant les juridictions compétentes. Car pour ces élections couplées, outre les 11 qui concourent pour la magistrature suprême, la CENI a enregistré 7291 candidatures pour la députation nationale, indique le confrère. Terminons cette revue de presse par l'Observateur qui met à sa une l'arrivée des premiers lots du matériel électoral.
Merci Samuel Kachak. Là, c'était la revue de presse consacrée aux deux principaux thèmes de cette tribune de la presse. Mais bienvenue Marie Bakoumagna. Il y avait beaucoup d'autres sujets qui ont alimenté l'actualité cette semaine.
Oui, il y avait beaucoup d'autres sujets qui ont alimenté l'actualité. Il s'agit notamment aussi de l'insécurité récurrente à l'est de la partie orientale du pays, le ventre mou de la République de Kivu, où il y a un commandant qui s'appellerait Zabuloni, qui refuse d'obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et il s'est installé à 6 kilomètres de Masisi, alors que sa hiérarchie lui a demandé de regagner Goma pour d'autres fonctions. C'est une actualité qui démontre que la situation est toujours volatile à l'est de la République démocratique du Congo.
L'ouverture de la session ordinaire au Parlement.
Oui, c'est une session, ça sera certainement la plus courte session qui puisse exister. Le président Boshab l'a souligné. Ben, j'espère que le gouvernement va déposer rapidement le projet de budget 2012 pour permettre au pays de fonctionner normalement plutôt que de vivre une période d'exception.
Giscard Koussema, quels sont les autres sujets pour vous?
Comme bienvenue, j'aimerais revenir sur la situation qui prévaut encore dans l'est du pays, principalement dans la ville de Bukavu, lorsqu'on sait que tout part toujours de ce coin du pays et donc tout doit également être pris au sérieux. Et donc, l'histoire récente renseigne que, généralement, toutes les guerres que nous avons connues récemment commencent toujours par de faits anodins comme cette situation. Et ce qui est grave, c'est que jusque-là, aucune explication officielle n'a été donnée, et ce qui laisse libre cours aux rumeurs et supputations de tout genre.
Il y a également le matériel de la CENI qui a commencé à arriver.
Bien sûr, c'est une actualité qui est là et qui reste encore. Et là encore, il y a débat autour du temps qui reste, le matériel, son déploiement dans les 74 jours.
Barthélémy Kazadi, vous intervenez de Lubumbashi. Quelle est l'actualité dans cette ville particulièrement?
À Lubumbashi, l'actualité, c'est le retour dans la capitale que préfère du gouverneur du Katanga, le chef de l'exécutif, Moïse Katumbi Tapwe, après une absence de quelques jours en dehors de la province et même en dehors du pays. Le gouverneur du Katanga est rentré hier et est aussitôt rentré. Il s'est, comme d'habitude, livré aux visites, aux différentes visites des différents chantiers qu'il a déjà initiés à travers la province du Katanga. Et hier, aussitôt arrivé, Moïse Katumbi Tapwe s'est rendu au complexe scolaire Kiwele où s'effectuent les travaux de réhabilitation.
Abordons à présent notre premier thème de ce soir, publication ce jeudi de la liste provisoire des candidats à la présidentielle après la clôture dimanche dernier de l'opération de dépôt de candidature aux élections présidentielles et législatives. Le bureau de la CENI a déclaré recevables les 11 candidatures déposées pour l'élection présidentielle prochaine. Aucune candidature féminine n'a été enregistrée, affirme le bureau de la CENI. Satisfait de cette publication dans le délai, le président de la CENI annonce la publication des listes provisoires pour la députation nationale dans les prochains jours. Daniel Ngoï Mulunda au micro de Michel Kifindangoy.
Cette publication vient confirmer une fois de plus l'engagement du bureau de la CENI d'organiser les élections libres, démocratique, transparente et apaisée dans le délai constitutionnel. La réception depuis hier des matériels électoraux, de bureaux de vote et des centres locaux de compilation des résultats à l'aéroport d'Njili en constitue la preuve éloquente que les élections sont imminentes dans notre pays. Nous publions aujourd'hui la liste des candidatures à l'élection présidentielle. Quant à la liste des candidatures à la députation nationale, elle sera publié ultérieurement. En effet, le bureau de la CENI a reçu 11 candidatures à l'élection présidentielle et 7200 candidatures à la députation nationale traitées par nos différents bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle.
La CENI rappelle aux candidats ayant déposé les dossiers de candidature à l'élection présidentielle que la période de dépôt de recours est fixée du 16 au 19 septembre prochain. Dans un communiqué, la CENI souligne que les recours en contestation des candidatures sont à déposer devant la Cour suprême de justice. Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes rédacteur en chef économie à Télé 7 du groupe de presse Le Potentiel basé à Kinshasa. 11 candidatures cette fois-ci par rapport aux 33 de 2006. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, certainement que les gens ont vu que le poste de chef de l'État, de président de la République, ce n'est pas une mince affaire et les gens ont revu leurs ambitions à leur vraie dimension. Contrairement à ce qu'on a vécu en 2006, il y avait un foisonnement de candidatures, seulement pour se faire valoir. Et là, même 11, moi je suis d'avis que c'est aussi excessif. On va tendre vers deux ou trois candidatures qui vont faire l'unanimité dans l'opinion et qui vont focaliser l'attention du plus grand nombre de Congolais. Moi, je crois que si tel est le cas, le débat politique prendra de la qualité, le débat politique sera focalisé et ne sera pas dispersé comme on a vécu en 2006. Et nous espérons que les programmes politiques des uns et des autres seront en mesure de rencontrer les attentes de la population.
Alors, à titre de rappel, les 11 candidats sont Jean Djamba de l'ANC, Étienne Tshisekedi wa Mulumba de l'UDPS, Mobutu Nzanga UDEMO, Vital Kamerhe UNC, François Kakese URDC, Léon Kengo Adondo UFC, Antipas Mbusa Nyamwisi indépendant, Josué Alex Mukendi Kamama indépendant, Joseph Kabila Kabange indépendant, Adam Bombole Intole indépendant et Oscar Kachala de l'UREC. Plus de la moitié de ces candidats sont de l'opposition. Bienvenue Marie Bakoumania.
C'est des bonnes guerres. Ils sont de l'opposition, ils sont déclarés tels de l'opposition. Mais ne vous dites pas que certainement ceux qui viennent de l'opposition ne vont pas rallier les camps de la majorité, ils ne vont pas rallier le président de la République en fonction. C'est des candidatures comme, je prends comme ça,
à tout hasard,
la candidature de Adam Bombolé. Est-ce que cette candidature qui n'est pas portée par le MLC va bénéficier au MLC? Est-ce que ça ne c'est pas une candidature qui va justement jouer contre les intérêts du MLC? Et si ça joue contre les intérêts du MLC, ça va bénéficier à qui? Certainement au président de la République, Joseph Kabila. Donc, il ne faut pas croire que n'est avantagé que l'opposition, la majorité également, tire profit de ces foisonnements, de ces candidatures qui sortent de nulle part, de ces candidatures qui sortent de la nuit et du néant, comme si, quelque part, ce sont des candidatures en embuscade pour des intérêts, pas toujours des intérêts supérieurs de la nation.
Giscard Kousséma, journaliste à la radio-télévision digitale Congo émettant depuis Kinshasa, l'opposition y va-t-elle déjà en ordre dispersé, comme c'était prévisible d'après certains observateurs?
Oui, à première vue, on est tenté de les croire à l'un lorsqu'on sait que tous ceux qui se réclament de l'opposition ont un seul discours. Seul, on ne peut pas gagner des élections et donc il faut un candidat commun ou unique. C'est la terminologie en vogue. Et donc, y aller en ordre dispersé, comme ça signifie, comme l'a dit Bienvenue, soit tout d'abord qu'il y a des infiltrations du pouvoir, deuxièmement, il y a... également un manque de consensus au niveau de primaire à la congolaise. Et donc, nous pensons que d'ici la tenue effective des élections, on connaîtra la vraie couleur de ceux qui se réclament de la gauche comme de la droite. En réalité, du côté de la droite, les choses sont claires, le candidat est aligné, c'est le chef de l'État sortant, mais du côté...
Qui se présente comme indépendant.
Qui se présente comme indépendant. En fait, c'est cette ouverture-là, justement, qui peut susciter des suspicions pour dire que même parmi tous les prétendants, tous ceux qui sont encore ses rivaux jusqu'en ce moment, peuvent encore se rallier de son côté, d'autant plus qu'il est indépendant. Il ne s'est pas recroquevillé autour d'une plateforme ou d'un parti politique ou d'un mouvement associatif. Et donc, on aurait bien voulu effectivement voir deux pôles clairement définis, mais comme les Congolais sont apparemment décidés à ne jamais se mettre d'accord, mais on attend, on observe, nous on est journalistes, on observe et on verra peut-être que dans les jours qui suivent, il peut se passer beaucoup de choses.
Mais il y a certains observateurs qui pensent qu'il n'y a pas que l'opposition qui est un peu fragilisée par cette multiplicité de candidatures, mais il semblerait que la majorité le soit aussi. Le président se présente comme indépendant, mais il y a son ancien allié Mboussa Nyamwisi qui se présente également comme indépendant, Nzanga Mobutu, ancien allié. Et jusque-là, le Palou n'a pas encore défini une ligne de conduite claire.
Effectivement, Alain, à cette liste, on peut également ajouter tous les autres candidats qui restent, qui ont à un certain moment également travaillé dans le même pouvoir. Et donc, c'est pour dire que là également, il y a beaucoup de frictions internes qui ont amené à ce genre de déchirement. Et de part et d'autre, on ne saurait être jugé que par le discours qui sera tenu, parce que vous savez, il y a plusieurs paramètres qui devraient entrer en ligne des comptes pour ces élections de 2011. Et donc, il ne faudra pas seulement se focaliser sur le bilan, comme d'aucuns le pensent. J'ai un bilan, mais il y a des spécialistes qui pensent que le seul bilan ne suffit pas pour gagner une élection. La seule popularité ne suffit pas également. Il y a un certain nombre de paramètres qui doivent entrer en ligne des comptes pour gagner une élection. Et je pense que le chef de l'État sortant l'a compris. Et c'est pourquoi il a évité de rester dans les pièges d'une formation politique ou d'une plateforme. Et c'est d'ailleurs une sorte de désaveu. Beaucoup pensent que c'est même un désaveu.
Barthélémy Kazadi, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC au Katanga. Quelle est votre analyse par rapport au nombre des candidats et à toutes les analyses qui ont été faites autour de cette table concernant la position des candidats?
Je note d'abord que c'est une diminution très sensible et considérable. Si on doit partir des 33 candidats à la présidentielle en 2006 à 11, on constatera que les Congolais, petit à petit, acquièrent une certaine maturité politique. On devient de plus en plus conscient. On s'est dit, attention, le fauteuil présidentiel, c'est pas n'importe quel fauteuil. Il faut pas y aller de n'importe quelle manière. Ça, c'est de un. De deux, j'ai dit que l'opposition, bien que numériquement par favorite, mais elle part tout de même fragilisée. Et c'est que vous entendez des discours opposition historique, opposition parlementaire, opposition X, opposition Y, et ça fragilise davantage cette opposition là-bas qui est partie en ordre dispersé. Moi, je pense que l'opposition pouvait se revigorer autour d'un candidat unique afin de se donner beaucoup plus de tonus, de se donner beaucoup plus de chances de remporter les élections. Et alors, la majorité, même si elle n'est pas numériquement majoritaire sur le papier, mais elle est quelque peu galvanisée par une certaine force, l'unité. Vous sentez que cette unité là-bas fera de sorte que le candidat de la majorité puisse avoir beaucoup plus de chances que ceux de l'opposition, bien que numériquement ils sont nombreux. C'est que théoriquement l'opposition a aligné plusieurs candidats, mais pratiquement je sens que la majorité a été beaucoup plus sage, beaucoup plus prudente, et elle a aligné je dirais un candidat pour les besoins de la cause.
Bienvenue Marie Bakoumania. La majorité est plus unie et a bien joué sa stratégie, d'après Barthélémy Kazadi.
Non, je partage pas cet avis. La majorité, elle est également fissurée. Moussa Nyamwisi, il ne vient pas de l'opposition. Moussa Nyamwisi, je remonterai même à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, quand il prendra des voix, il ne prendra pas les voix de l'opposition. Il va puiser les voix dans le fief reconnu à Joseph Kabila, le fief qui a fait élire Joseph Kabila en 2006, c'est-à-dire l'est du pays. Moussa Nyamwisi, c'est dans le pays Nandé. Et le pays Nandé, comme on le sait, à l'est, les Nandé sont plus nombreux que les autres tribus dans cette partie de la République, et essentiellement qu'on l'oublie toujours pas, qu'on ait toujours à l'esprit que le vote en République démocratique du Congo a toujours été tribal. Et là, ça fera très mal à la majorité, au candidat de la majorité, Joseph Kabila. Est-ce que le candidat de la majorité va effectuer des percées du côté du centre et de l'ouest? Moi, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Certainement qu'il y a un travail qui a été, un travail de fourmi qui a été abattu par les gens de la majorité, mais il n'y aura pas des percées spectaculaires de Joseph Kabila à l'Équateur, au Bas-Congo, dans le Bandundu, dans les Kassai. Je ne le vois pas. Je ne vois pas des percées spectaculaires. Ce qui revient à dire que la majorité part avec les faveurs de pronostic à ce stade, c'est vraiment faire preuve des calculs qui sont faussés à l'avance, qui sont biaisés à l'avance. À l'avance, on doit se dire que le scrutin présidentiel reste très ouvert. Ça reste très ouvert, d'autant plus que des donnes qui n'existaient pas en 2006 sont venues en fait reconfigurer la carte électorale de la République démocratique du Congo. Et celui qui fera la bonne analyse, celui qui fera des très bonnes alliances, c'est celui-là qui gagnera.
Giscard Koussema, sur les 11 candidats à la présidentielle, il n'y a pas de femmes, contrairement à 2006.
C'est malheureux de partager ce constat avec toi, Alain. C'est que les femmes, au-delà du discours féministe qu'on entend, ne prennent pas encore elles-mêmes très au sérieux cet engagement de la parité, cette lutte, et même toutes les ténors de ces discours féministes, malheureusement, ont pris du recul, et c'est regrettable. C'est encore pour dire que quelque part, les responsabilités ne se donnent pas par rapport au genre, mais c'est par rapport à une compétence. Et donc, les femmes se sont éliminées d'elles-mêmes, et ça fait mauvaise publicité, malheureusement, pour tous les discours qu'on a entendus.
Mais certains observateurs, Giscard, pensent que dans tous les partis politiques, il y a une autorité morale. Cette autorité morale pourrait-elle céder aussi facilement place à la femme pour qu'elles émergent?
Oui, mais une femme peut aussi être autorité morale. Déjà, sur ce plan-là, on n'en trouve pas. Et donc, c'est pas des rôles qui se distribuent, c'est des rôles, ce sont des femmes. On a vu des femmes en 2006. Et pourquoi pas en 2011? Donc, ça, c'est un faux débat. Je crois que ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont éliminées. Mais si elles ne sont pas à la magistrature suprême, peut-être qu'elles peuvent exceller ailleurs avec la députation nationale. Il y a plus de 7000 candidats et je crois que de ce côté-là, on peut avoir ne fût-ce que 30% de femmes.
Barthélémy Kazadi, avant que l'on aborde l'ambiance dans laquelle toutes ces candidatures ont été déposées, que dire des candidatures de ces personnalités entre guillemets dites inconnues? Comment vous analysez cet aspect?
Oui, mais je ne sais pas inconnue par rapport à quoi. Moi, je pense qu'il faut avoir des actions beaucoup plus concrètes sur terrain. Vous êtes sans ignorer, tout à l'heure, le confrère bienvenu Marie Bankumbanya a dit que les élections en République démocratique du Congo sont tribales. C'est que ces gens-là sont d'abord connus de leur tribu. C'est qu'ils ne partent pas du néant, ils sont connus quelque part et j'imagine qu'ils sont en train de poser quelques actes beaucoup plus concrets, d'abord dans un coin bien localisé et en plus ils vont sortir au grand jour, ils vont se faire connaître devant le grand public. Moi je pense que ce sont des gens qu'il ne faudrait pas minimiser. Ils peuvent aussi être capables de beaucoup plus de surprises.
La clôture du dépôt de candidature, vous le savez, aux élections présidentielles et législatives est intervenue dimanche dernier dans les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI, BRTC, sur l'ensemble du pays. Le vice-président de la CENI déplore cependant les difficultés dans lesquelles ont travaillé les BRTC à cause de l'arrivée massive des candidats à la dernière minute. Jacques Joly est au micro de Jeff Ngoy.
Nous remercions le peuple congolais, mais nous regrettons quand même notre culture de venir le dernier jour avec les dossiers incomplets. On a vu des personnes remplir ou se faire photographier dans l'enceinte de nos BRTC, des dossiers qui n'ont pas été complètement, correctement remplis, ce qui a donné énormément de travail à notre personnel pour une opération qui devait durer tout simplement 5 minutes dans la vérification des pièces déposées. Nous avons eu à prendre plusieurs mesures d'allègement jusqu'à permettre à notre personnel de consigner les fonds et d'établir le reçu provisoire. Parce que le but de la CENI, c'est d'être un service public. Hier, à 22h, nous avons distribué des jetons. Et la masse des jetons est quand même énorme parce qu'il y a de BRTC qui atteignent, par exemple, dans le Tchangou, plus ou moins 246, n'est-ce pas, des jetons qui doivent être traités, donc des dossiers qui doivent être reçus aujourd'hui.
Quand le professeur Joly parle de hier à 22h, c'est-à-dire dimanche à 22h, bienvenue Marie Bakoumania. Décidément, les Congolais, nous avons du mal à nous séparer de la culture de la dernière minute.
Non, décidément, plutôt les dirigeants congolais ont du mal à prévoir ce qui peut arriver. Quand le professeur Jacques Joly dit nous avons la manie de venir en retard, mais lorsqu'on est gère ses prévoir, on devait se dire, nous avons dans nos habitudes venir en retard et prévoit et programmer en conséquence que les Congolais viendraient en retard. Et je pense que c'est ce qui devrait être fait. On ne doit pas le déplorer, on doit plutôt tenir compte de cette réalité qui est la nôtre, que les gens viendraient en dernière minute et prévoir des marges de sécurité. Et lorsque, à l'époque, on avait rendu public le calendrier électoral, moi j'étais particulièrement sceptique, je me disais, ils ne tiendront pas, parce que dans notre culture, nous avons une manière de nous comporter et étant donné qu'on n'avait pas prévu des glissements même d'un jour dans tout le programme, ça ne tiendrait pas. Et là, ça m'a donné raison et je me réconforte à l'idée de me dire que, quelque part, nos dirigeants doivent nécessairement intégrer dans leurs prévisions, dans leur manière de gérer les affaires, les comportements des Congolais. Nous sommes comme ça, ben ça va peut-être changer dans les années à venir, mais pour le moment, nous nous comportons de cette manière-là, à commencer par les dirigeants.
Plus de 7000 candidatures aux législatives en cours de traitement. Le président Daniel Ngoï Moulunda l'a dit. Par rapport à 2006, c'était plus de 10 000 candidatures. Qu'est-ce qui a évolué?
Oui, les gens sont devenus de plus en plus réalistes. Les gens sont devenus réalistes, on s'est dit, ben, je vais y aller. Est-ce que la population... Et n'oubliez pas, cette élection sera des élections sanctions. Les élections de 2011, on va sanctionner ceux qui avaient reçu mandat en 2006. Il y aura des sanctions, on va sanctionner la classe politique, pas nécessairement la majorité. On va sanctionner même ceux de l'opposition qui se sont mal comportés. Hein. Donc la population n'est plus dupe et les gens sont devenus un peu plus réalistes. Et il y a encore des opportunistes qui sont présentés et ils vont se rendre compte. Vous vous rendez compte que en 2016, on aura encore moins de candidats parce que les gens auront acquis une certaine maturité, auront acquis une certaine conscience de ce qu'est un député, ce qu'est réellement un député. Personne ne peut se hasarder à se faire député.
Giscard Koussema, beaucoup de candidats qui viennent se faire photographier dans l'enceinte de la CENI, tel a oublié son diplôme, tel document, était-ce prévisible?
Oui, c'était prévisible au vu du timing qui avait été accordé à ces candidats. Et je voudrais d'abord relativiser les propos tenus tout à l'heure par le premier vice-président de la CENI pour dire qu'il serait tout de même malhonnête d'attribuer tous les torts aux candidats. On peut revisiter l'histoire et voir comment on est arrivé à cette date-là. La loi elle-même, elle a été votée en une journée. Dans la soirée, les textes étaient publiés. Le lendemain, il fallait déjà commencer à déposer la candidature. Et si on a tenu, c'est parce qu'on a donné un moratoire, une faveur, pratiquement, à tout ce monde. Et donc, jusqu'au moment où certains candidats s'apprêtaient, ils avaient du mal à accéder au texte même, à la loi. Je me pose la question de savoir si c'est le texte a même été publié dans le temps au journal officiel. Effectivement, beaucoup de textes circulaient qui, dans des journaux, d'autres sur base de brouillons distribués aux députés. Et donc, on ne peut pas attribuer tous les torts aux candidats. Il n'y a pas eu communication. Ce n'est pas parce qu'on a déposé un communiqué de presse qu'automatiquement tout le monde est informé. Lorsqu'on sait que d'abord accéder à un média ici n'est pas du tout facile, c'est pas tout Kinshasa qui est éclairé, il est démontré que Kinshasa ne peut pas être éclairé tout d'un coup, toutes les 24 communes. Et donc c'est aussi ça, donc il y a un problème de communication, il n'y a pas eu de sensibilisation et il n'y a pas eu de temps de vulgarisation et c'est tout à fait normal qu'on arrive à ce genre de désagréments.
Barthélémy Kazadi, comment s'est passé le dépôt des candidatures? Dans quelle ambiance ça s'est passé à Lubumbashi?
Les dépôts des candidatures, comme sur l'ensemble du pays, selon ce que je viens d'entendre tout à l'heure, lancé depuis le 18 septembre 2011 par le président de la CENI, au Katanga, cette opération s'est passée d'abord sur fond d'une léthargie manifeste. C'est que à partir du 18 septembre, on n'a pas vu des candidats députés nationaux faire la queue ou se précipiter pour aller dans différents bureaux de réception et de traitement des candidatures disséminés à travers la province du Katanga. Il fallait attendre le tout dernier moment, les moments ultimes, c'est-à-dire les trois jours avant la clôture de cette opération sur l'ensemble du territoire national pour voir les partis politiques se précipiter pour aller déposer les candidatures de leurs membres. On a vu, par exemple, certains partis politiques venir le jour même de la clôture de l'opération du dépôt des candidatures avec des dossiers en main, mais disant « nous n'avons pas encore payé à la banque », alors que la CENI n'avait pas les prérogatives de recevoir de l'argent dans ces bureaux. Alors, des dossiers qui étaient renvoyés comme ça, il faut aller payer à la banque. Il y a même des partis politiques qui ont amené des dossiers de leurs candidats le jour de la clôture, c'est-à-dire le dimanche, avec des documents non notariés. Le dimanche, des documents non notariés. Alors, qu'est-ce que ces partis politiques-là attendaient de la CENI? Alors, il y en a même ce qui est bizarre, des candidats qui sont arrivés sans photo, passeport, d'autres des documents non photocopiés, il fallait courir, on les a vus courir sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi, ici, qui à gauche, qui à droite, cherchant un notaire, cherchant où verser la caution, qui d'autre cherchant un photographe, photo à la minute, tout ça. Ça démontrait une certaine improvisation, une certaine impréparation dans les chefs des candidats. Alors, les confrères, bienvenue, Marie Bakoumania, a dit que la responsabilité est à partager. Mais bien sûr, la responsabilité est à partager, mais tous les partis politiques, tous les candidats savaient qu'ils allaient déposer leur candidature pour se faire photographier. Est-ce qu'il fallait simplement que les annexes de la loi électorale soient votées au Sénat pour qu'on aille se faire photographier, pour avoir toutes ces pièces académiques en ordre? Il faut nécessairement que les annexes de la loi électorale soient votées au Parlement et promulguées par le chef de l'État. Mais moi, je pense que non. Il y a des documents qui devraient en principe être prêts il y a bien longtemps. Et je ne suis pas d'accord avec Bienvenue Marie Bakoumania quand il dit que c'est sans notre culture. Il fallait que les autorités de la CENI prévoient un temps, qu'ils comprennent que c'est comme ça que les Congolais vont agir. Mais non, il faudrait pas croire que tout ce qui est en préparation, tout ce qui dénonce d'un certain manque de sérieux
est congolais.
Aux Congolais. On ne peut même pas inclure ça dans notre culture.
Merci.
Moi, je pense que nous devons fournir assez d'efforts pour émerger, pour sortir de ces bourbiers dans lequel nous nous trouvons, pour être déjà beaucoup plus respectable quand on dit on dépose les candidatures du 18 au 5,
respecter les délais.
Du 19, on s'aligne déjà. Il y a des bureaux de réception et de traitement des candidatures qui ont fermé les portes à 0 heure.
Merci Barthélémy Kazadi. Deuxième thème de cette tribune de la presse. Dans un discours prononcé mercredi dernier à la ferme présidentielle de Kinga-Nkati à Kinshasa, devant les partis de la majorité présidentielle, le président Joseph Kabila a dressé un bilan globalement positif de ses 10 ans à la tête de la RDC. Joseph Kabila a affirmé avoir tenu toutes ses promesses. Parmi les grandes réalisations qu'il a épinglées, il y a des travaux d'infrastructures routières ainsi que le rétablissement de la paix et la réunification du pays. On écoute le président Joseph Kabila parler de son bilan sur le plan socio-économique.
Le pouvoir d'achat de la plupart de nos frères et sœurs demeure en deçà des attentes. Mais nous sommes jusque-là abstenus de rendre compte de ce qui a été accompli à cet égard. Depuis plus ou moins 5 ans, les salaires des fonctionnaires sont en constante augmentation. En effet, le salaire du huissier, qui était de 865 francs congolais en 2005, est aujourd'hui de 55 000 francs congolais. Celui des médecins est passé de 150 dollars en 2006 à 700 dollars en 2009. Les magistrats ont eux aussi vu leur salaire augmenter de 704 dollars en 2008 pour atteindre 1 600 dollars en 2009. Quant aux professeurs d'université, de 8 dollars en 1997, leur salaire est passé à 200 en 98, 300 en 2006, 500 en 2009, 1500 en 2010 et 2200 en 2011.
Giscard Kousséma, vous êtes journaliste à la radio-télévision Digital Congo émettant depuis Kinshasa. Quelle analyse vous faites de ce discours du chef de l'État?
Écoutez, moi je ne voudrais pas me substituer aux politiques pour faire une analyse, mais en tant que journaliste, je voudrais prendre les aspects communicationnels de cette sortie médiatique du chef de l'État. Vous le savez, nous communicateurs, on a souvent reproché au chef de ne pas trop communiquer. Il devait le faire, d'autant plus que tous ses rivaux l'ont fait. Et peut-être que lui a choisi notre tribune pour le faire. D'autres l'ont fait à la sortie du BRTC, chacun cherchant à expliquer le sens de l'acte
de sa
candidature. Lui a choisi de le faire devant tous ceux qui l'ont accompagné. Alors, mais là où il faudrait maintenant faire la part des choses, c'est lorsque le président parle du bilan des 10 dernières années. Moi, je pense que la population va le juger sur base du bilan des 5 dernières années. On lui a donné un mandat de 5 ans. Il avait déjà été sanctionné par ses votes positifs en sa faveur en 2006 sur base d'une évaluation des 5 premières années. Il le sera cette fois. Il sera jugé donc sur base de promesses qu'il avait faites en 2006 et si ces promesses ont été tenues. Et là, il a anticipé en donnant le bilan. Et je voudrais ajouter ici qu'une élection ne se gagne pas toujours sur base d'un bilan. parce que même s'il faudrait y aller par rapport à au bilan, chacun devrait faire son bilan personnel. En quoi ce bilan m'a intéressé, moi, personnellement? Le président avait fait de promesses de 5 chantiers. Je crois que tout son mandat s'est focalisé autour de ce chantier. Et donc, chacun des votants fera ses bilans chez lui. Ceux de Kinshasa feront le bilan de 5 chantiers à Kinshasa. Ceux du Kassai les feront chez eux. Ceux du Kivu, mêmement. Et par rapport à chacun de thèmes tenus. Donc c'est un peu cela. Mais au-delà, là encore, il y a à la fois bilan et perspective. Le chef qui dit, bon, écoutez, je vous présente le bilan, mais pour le prochain mandat, ce sera un mandat de l'émergence du Congo. On a dit, il faut voter pour moi parce que je voudrais passer de l'émergence. Mais avant de passer à l'étape du pays émergent, comme le Brésil, je crois qu'il a voulu faire allusion à certains pays émergents, comme le Brésil, reste le modèle congolais, il faudrait d'abord qu'il soit sanctionné par rapport, qu'il se justifie par rapport aux promesses tenues en 2006.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes rédacteur en chef économie à Télé7 du groupe de presse Le Potentiel basé à Kinshasa. En revenant sur les aspects communicationnels tels que présentés par Giscard Koussema, le président de la République n'a-t-il pas vidé la substance de sa campagne?
Je crois même que le président de la République a offert des armes à ses adversaires. Et sur le plan communicationnel, évidemment, l'opportunité d'effectuer une sortie médiatique était là. La sortie de Mboussa Nyamwisi, les discours tenus par Mboussa Nyamwisi, a certainement obligé le chef de l'État à sortir du bois. Mais est-ce que la manière dont on a procédé est la meilleure? Moi, j'ai dit tout de suite non. J'ai dit tout de suite non. S'adresser aux partisans tel que ça a été fait et en des termes qui ont été utilisés, c'est offrir vraiment de la matière aux opposants de Joseph Kabila. Et là, j'en prends comme preuve les énumérations des améliorations apportées dans le pouvoir d'achat des agents et fonctionnaires de l'État. En tout cas, le lendemain, juste après ces discours, lorsqu'on s'est baladé dans la ville de Kinshasa, par exemple, toutes les catégories socio-professionnelles citées n'ont pas reconnu toucher des montants qui ont été avancés par le chef de l'État. Je suis mal à l'aise, mais face à des contradictions qui ont été aussi flagrantes, on ne peut pas se taire. Par exemple, les professeurs d'université, le plus gradé, le professeur ordinaire, il a 1 030 000 francs congolais. Ce n'est pas 2 200 $ américains. C'est loin de 2 200 $ américains. Et les magistrats, à quelques semaines avant la tenue de ce discours, les magistrats sont allés voir le Premier ministre pour lui dire très exactement ceci: Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré publiquement que vous nous payez 1 600 $, nous on les a jamais vus. Et les magistrats persistent à dire qu'ils touchent 493 534 francs congolais. C'est loin de 1 600 $ américains. On ne peut pas faire dire à notre chef de l'État, qui est notre chef de l'État à tous, on ne peut pas lui faire dire des choses qui le mettent en faux vis-à-vis de la réalité sur le terrain.
Barthélémy Kazadi, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Katanga. Comment vous avez accueilli le discours du chef de l'État?
Merci beaucoup Alain Irung. Le discours du chef de l'État, nous l'avons accueilli de manière différente, bien sûr. La population l'a accueilli de manière différente. Il faudrait noter que le bilan tel qu'il a été présenté par le chef de l'État a été tout à fait réaliste dans un premier temps. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila s'est basé sur des faits qui existent réellement. Prenons sur le plan économique, la stabilité macroéconomique, bien sûr, vous constaterez que les fluctuations monétaires auxquelles la République démocratique du Congo faisait chaque fois face, eh bien, toutes ces fluctuations là-bas ont quelque peu disparu. C'est que la monnaie a été stabilisée pendant un certain moment donné. Et les infrastructures, ici chez nous au Katanga par exemple, je peux vous affirmer sans crainte d'être contredit que les routes sont réhabilitées tous les jours. La ville de Lubumbashi est en train de revêtir d'une peau neuve. C'est sur des données tout à fait concrète, tout à fait exacte, que le président Kabila a établi son bilan. Mais il y a aussi les disparités que venait de relever tout à l'heure mon confrère
Bienvenue Marie Bakoumania, c'est que on a noté quelque part qu'il y avait une nette démarcation entre ce que le président a dit dans son discours et ce qui est vécu, ce qui est palpable sur le terrain. Il est possible que des services habilités peut-être à lui fournir certaines données crédibles n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Alors qu'est-ce que je retiens en substance? Je retiens que lui-même, le chef de l'État, a reconnu que beaucoup reste à faire. Vraiment, beaucoup reste à faire. Mais ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a établi dans son bilan, constitue, n'est-ce pas, des jalons, des bases qui sont posées pour la reconstruction de la République démocratique du Congo.
Giscard Koussema, c'est plutôt pour attester qu'il y a effectivement un déphasage entre les discours et certaines réalités. On peut bien attribuer 2 200 $ américains à un professeur d'université, mais à un taux irréaliste, irréel, qui est peut-être que la moitié du taux réel. Ça, c'est une situation qu'on a connue et qui a tendance à revenir encore aujourd'hui. Et donc ça, ce n'était qu'un exemple. On ne va pas polémiquer là-dessus. Le plus important, c'est de savoir tout de même que il y a quand même un certain déphasage entre la réalité et certaines données chiffrées. Lorsqu'on parle, par exemple, de performances économiques, on l'a toujours dit, tant que ces performances économiques faites généralement pour des institutions de Bretton Woods n'auront aucune incidence sur le vécu quotidien, le Congo restera toujours le même. Et paradoxalement, d'ailleurs, plus on dit qu'il y a des performances sur le plan économique, mais la situation sur le plan social, sur le terrain, va de mal en pis. Alors finalement, on se demande à quoi servent ces performances et cette rationalité lorsqu'on sait que sur le terrain, pour être bien coté par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, il faut serrer les ceintures et priver certaines catégories sociales du salaire parce qu'on aimerait bien être coté par les institutions financières internationales.
Bienvenue Marie Bakoumania. Au niveau des infrastructures, il y a beaucoup de choses qui ont été faites.
Oui, effectivement, il y a des choses pour lesquelles le chef de l'État pouvait s'en vanter. Les routes comme l'aménagement du boulevard du 30 juin, l'aménagement de la route Kinshasa-Matadi. On faisait des jours et des jours pour atteindre Matadi, une route principale. La réhabilitation de la route Nyanya et autres vers la province orientale. Ce sont des choses à placer à l'actif de l'actuel chef de l'État. Il y a des avancées qui sont effectuées, mais il y avait moyen de faire mieux que ça. Il y avait moyen d'aller vite. Même les institutions de Bretton Woods, le FMI par exemple, nous a encore demandé d'être transparents dans la gestion de nos ressources naturelles. Et lorsqu'on restera dans cette opacité qui nous caractérise, lorsque l'on restera dans ces commissions que les gens perçoivent, un groupe de gens perçoivent régulièrement dans tout marché passé avec l'État, on ne pourra pas à nous redistribuer des vraies richesses. Et là, c'est l'effort, c'est le point faible du mandat qui s'achève, c'est l'impunité.
Barthélémy Kazadi, nous terminons par vous. Cette communication du chef de l'État était-elle opportune?
Oui, mais parce que tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait au sortir du bureau de réception des traitements des candidatures. Tous les candidats se sont déclarés. Peut-être que lui, Joseph Kabila, a jugé opportun de regrouper les membres de sa famille politique pour s'adresser à... d'une manière particulière.
Merci, monsieur, d'avoir participé à la tribune de la presse de ce jour. Merci à Samuel Kachak, qui l'a réalisé sous la supervision de Pélé Kipelamondo. Alain Rung, Mouchin, je vous l'ai présenté. Mimi Kindou était à la mise en onde. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.